bruit de vestiaire sous la couette.
Ah, sous la couette. Sous la couette. Sous la couette.
C'est fini, oui.
Avec Sébastien Barberon.
D'ailleurs, il déteste le sport. Il préfère s'enfermer des heures au cinéma, c'est ce qu'a les yeux.
Je vois que sur nos t-shirts et sur nos tifos est inscrit ici au studio le numéro 6. Comme pour ouvrir la 6e édition de cette émission consacrée au sport, c'est sûr, et nous l'espérons aussi un peu à la culture. Mais nous aurions tout aussi bien pu remplacer le 6 par un 8 qui, quant à lui, indique le nombre de mois qui nous séparent du Sportacle. Alors le Sportacle, c'est un événement très très atypique piloté par la compagnie Terra Luna et c'est un événement qui aura lieu au Palais des Sports en juin prochain, enfin si tout va bien. Mais pour l'heure, laissons-nous aller à la découverte de notre invité. Alors, la dame qui nous accompagne ce soir est la numéro 3 d'une fratrie de 6. Une végétarienne multisport qui serait aussi une lectrice multigenre et une voyageuse multipaysage, sous prétexte, dit-elle, qu'on aurait une belle planète. Elle est un peu solitaire et un peu bande de potes. Elle est bisontine de naissance et même pas d'habitation. Elle aurait pu devenir prof parce qu'elle aime bien les gamins, mais un peu moins le système qui bat avec l'école. Alors, de fil en aiguille et de rencontre en hasard, elle est devenue éducatrice, et pas n'importe quelle éducatrice, éducatrice pour le sport adapté. Corinne Gollard, soyez la bienvenue parmi nous.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous les auditeurs, merci de me recevoir.
C'est avec grand plaisir. Alors Corinne, avec vos frères et sœurs, vous auriez pu monter une équipe mixte de quelque chose, non ?
On aurait pu, tout à fait, ouais, ça aurait été possible.
La fratrie, vous l'avez traversée et vous la traversez encore ?
Je la traverse encore, oui, effectivement, on a une famille assez sportive, hein, voilà, donc effectivement, on aurait pu monter une équipe mixte de je ne sais pas dans quel sport on se s'est retrouvé, mais tout à fait.
Parce que vous êtes un peu tous les sports finalement.
Oui, moi je suis un peu tous les sports à travers mon association aussi, hein, c'est une association multisport, donc oui, effectivement, on passe de la raquette au vélo, au maillot de bain, voilà. Oui, mais moi j'aime tous les sports. Tous les sports apportent, je trouve, des valeurs, des choses positives dans ma vie, comme dans ma vie professionnelle et personnelle. Donc.
Vous avez été une gamine heureuse, entourée de ses frangins et frangines.
Super. J'ai la chance d'avoir effectivement une famille, une super famille et une bonne bande de potes. Et donc du coup, effectivement, ça aide à se construire, d'avoir ces bases-là.
J'ai entendu dire aussi que vous auriez bien pratiqué la médecine aussi, mais seulement à condition de pouvoir guérir tous les patients.
C'est ça, c'est une médecine un peu particulière, ouais, avec 100% de réussite. Voilà, donc oui, j'aurais...
Donc ça n'existe pas du coup.
Ça n'existe pas du coup, effectivement, ça n'existe pas. Mais une médecine rurale avec proche des gens, je trouve que c'est... On avait un médecin de famille qui pouvait débarquer à 21h, qui était toujours dispo, et je trouvais que c'était chouette.
Ah oui, le fameux médecin de famille que quelques-uns parmi nous ont connu, quoi.
Tout à fait, oui. C'était quelqu'un de bien. Je trouvais que c'était, qui rendait service, qui faisait son métier avec toutes les valeurs qu'on peut retrouver à la campagne, dans le monde rural.
D'ailleurs, vous travaillez à la ville et vous habitez à la campagne, mais vous êtes né à la ville. Du coup, vous êtes plutôt quoi, mer ou montagne ?
Ben les deux. les deux. J'aime beaucoup cette ville bisontine. J'aime beaucoup le côté... nature très proche, la boucle, l'histoire de Besançon et la grosseur de Besançon. C'est une ville qui a une grosseur dans laquelle on se sent bien, les étudiants, tout le monde à sa place. C'est une chouette ville.
Ouais, comme on dit, quoi, la ville à taille humaine.
Tout à fait, à taille humaine. Je trouve que c'est ce qui définit bien Besançon.
Alors vous avez été étudiante à Besançon parce que vous sortez du STAPS, c'est ça,
l'UFR STAPS.
L'UFR STAPS à Besançon.
À Besançon, oui. Je suis restée dans la région. Je ne suis pas partie étudier trop loin. Et c'était des belles années.
Et alors au moment de l'UFR STAPS, en fait, vous vous êtes dit, tiens, je pourrais peut-être faire prof.
J'ai dit, tiens, c'est aller, j'aime le sport, j'aimerais bien enseigner, transmettre, donc allez, j'aimerais bien être prof de sport. Alors j'ai commencé en essayant de faire des remplacements dans les collèges, lycées, et ça m'a plu, mais j'ai pas réussi mon diplôme qui aurait pu me titulariser, et puis le système scolaire, je me sentais pas trop à ma place. à vrai dire. J'avais l'impression d'être un petit peu... mettre des notes à des gamins, c'était un petit peu compliqué. Enfin, voilà, je me sentais pas forcément à ma place, mais c'est vraiment un métier qui est fort agréable.
Et puis du coup, alors, prof, c'est non, mais éducateur, c'est oui, parce que du coup, à l'UFR STAPS, on vous donne la possibilité de plusieurs choses, c'est ça?
Oui, c'est ça. Il y a des filières différentes. Il y a plein de filières différentes à l'UFR STAPS. On ne forme pas que les professeurs de PS. Depuis que j'y suis passé, c'est encore beaucoup plus évolué. Mais là, il y avait une filière qui s'appelait activité physique adaptée, donc devenir éducateur sportif auprès de personnes handicapées.
Alors, handicapé, comment exactement? Parce que quand on parle handicap, ça nous raconte quelque chose de différent à chacun de nous, en fait, en fonction de notre histoire, notre parcours.
Oui, tout à fait. Donc, du coup, on est formé pour faire pratiquer les activités sportives aux personnes aussi bien handicapées physiques qu'handicapées mentales. Et moi, de par mon parcours, je me suis retrouvée à travailler dans une association avec des personnes handicapées mentales. Mais j'avais fait un stage professionnel auprès de personnes handicapées physiques.
Donc ça veut dire que vous pouvez professionnellement intervenir dans les deux cas de figure.
Tout à fait. Ouais. C'est une formation assez vaste. Ouais. Ouais, tout à fait.
Et alors, comment est-ce qu'on approche tout d'un coup le handicap au travers de cette profession-là? Sachant que, j'imagine que du coup, vous avez fait l'UFR STAPS, ça veut dire que vous êtes avec des gens qui courent partout, dans tous les sens, qui font plein de sports, qui ont plein d'énergie, qui sautent avec des compétiteurs, avec tout ça. Et tout d'un coup, là, la filière, ça change du tout au tout. Ou bien, on y trouve aussi, malgré peut-être l'image qu'on peut avoir du handicap, des gens aussi sont compétiteurs, qui courent partout.
Oui, tout à fait. Après, paradoxalement, on a l'impression qu'à l'UFR STAPS, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs, on fait beaucoup de sport, mais il y a énormément de disciplines théoriques. En général, pour avoir un DEUG, il y a 8 modules. Il y a 2 modules de sport et il y a 6 modules de choses théoriques, de la psychologie.
Vous restez un peu assis sur le banc, quoi.
On reste assis sur le banc. Il y a des fausses idées sur les UFR STAPS. Comme quoi, on est toujours avec des ballons. Pas du tout. Il y a beaucoup, beaucoup de matières théoriques. Et puis donc, la filière APA, c'est une filière où ceux qui ont un petit penchant pour venir un petit peu pratiquer ces activités avec le public un petit peu... différents, on se retrouve. Il y avait aussi des étudiants avec moi qui avaient de très haut niveau dans différents sports, des étudiants qui étaient là un petit peu parce que plus moins sportifs, mais plus branchés handicap. Enfin voilà, toutes sortes de profils.
Et là, vous vous y retrouvez aujourd'hui?
Moi, je m'y retrouve complètement. Ouais, complètement. Moi, je suis dans mon élément. Quand je suis dans l'association, dans mon travail, ouais, je n'ai pas l'impression d'aller au boulot. C'est une chance par les temps qui courent. J'ai vraiment le sentiment de...
Ouais, c'est plus qu'une chance.
C'est plus qu'une chance. Je suis bien consciente que je suis dans une association où la présidente, les membres directeurs, enfin tout le monde, et on est tous portés par la même chose. Et c'est très, très agréable de travailler dans ces conditions.
Ça, le soleil brille pour tout le monde. Hein. C'est le nom de l'association, puisque ça fait deux, trois fois qu'on parle de l'association, mais c'est ça. Le soleil brille pour tout le monde.
Tout à fait. C'est le nom de l'association qu'on a choisie, qui est née en 2007. Voilà. Elle a aujourd'hui 13 ans. Et... on a choisi un nom qui voulait un petit peu aussi transmettre un message directement, tant qu'à faire, voilà quoi. Donc, on est dans le sport adapté, dans un sport qui n'est pas forcément très très connu. Voilà, c'est vrai qu'on n'est pas très connu comme association. Et puis nos sportifs n'ont pas souvent le droit de s'exprimer ou pas le droit ou les capacités.
L'occasion donc, aussi, peut-être.
L'occasion aussi, également, oui.
Alors, vous pouvez nous éclairer un peu sur le handicap mental, parce que vous parliez de handicap mental. Et là, on peut se dire, mais alors, de quel handicap mental s'agit-il et quel sport on pratique et dans quelles conditions, quoi?
Tout à fait. Oui, je vais donner un petit éclairage là-dessus, tout à fait. En fait, un handicap, un handicap mental, c'est une limitation, c'est quelque chose qui entraîne une altération des fonctions cognitives, psychiques, qui entraîne des limitations d'activité dans la vie quotidienne. Voilà, donc du coup, les personnes...
Donc c'est très large.
C'est très large. Dans le handicap mental, il y a des maladies psychiques, aussi bien psychiques, donc des gens qui souffrent de paranoïa, de psychoses différentes. Il y a des maladies mentales, donc liées à des causes génétiques, comme on connaît bien les personnes qui souffrent de trisomie ou de syndrome, différents syndromes.
D'accord.
Ouais. Et dans les maladies mentales, il y a ces causes-là, génétiques, etc. Il y a aussi les causes... comme lié par exemple à l'alcoolisme de l'alcoolisme des mamans quand elles sont enceintes. Donc ça crée des dégâts très importants. Il y a tout ce qui est... Tous les accouchements qui ne se passent pas très bien avec des manques d'oxygène au cerveau à des moments donnés. Donc ça crée des handicaps irréversibles après pour les enfants. Et puis il y a aussi il y a également un petit peu des AVC. Les gens qui subissent des AVC peuvent aussi quand même avoir des troubles après au niveau du mental, quoi. Et puis il y a un autre handicap mental, donc les maladies psychiques, les maladies mentales. Puis maintenant il y a un autre groupe qui est l'autisme. Donc pareil, qui commence à être une maladie qui se développe de plus en plus. On ne connaît pas forcément les origines de l'autisme, mais il y a de plus en plus d'enfants qui souffrent de ces troubles-là.
Concrètement, ça veut dire que vous, dans le quotidien, quand vous êtes en gymnase, à l'entraînement, avec vos adhérents, vos licenciés, du coup, ce sont des gens, mais vous trouvez face à une très très grande diversité, ou alors vous essayez de mettre en place des groupes un peu homogènes, et puis c'est quoi l'homogénéité dans ce cas-là ?
Mais voilà, comme il n'y a pas d'homogénéité dans ce cas-là, tout le monde est là, tout le monde est le bienvenu. Il y a des niveaux très très différents. Puis après, c'est mon rôle, hein, j'ai un sport adapté, donc je m'adapte. Donc j'adapte.
Oui, c'est vous qui vous adaptez.
C'est moi qui m'adapte. Oui, c'est moi qui m'adapte. On adapte l'activité. Et c'est mon boulot. Ça c'est mon boulot. Et on accepte toutes les gens les plus légèrement déficients ou gens les plus lourdement déficients. Après, donc. Dans notre assos, on est multisport, donc on propose un panel d'activités, tout ce que les sportifs ont envie de pratiquer. On essaie de le mettre en place, parce que pour nous, il n'y a pas d'activités qu'ils ne peuvent pas pratiquer. Donc on est à l'écoute de leur désirata, et puis après, quand il y a de l'envie de pratiquer, ben on essaie de mettre en place. Il n'y a pas d'activité qu'on n'essaie pas de mettre en place pratiquement.
Donc ça va de la pétanque au volet en passant par la marche nordique ou peu importe quoi.
Peu importe. Ouais, peu importe. On essaie même... Il n'y a pas longtemps, on a organisé un petit séjour voile parce que là, des activités comme ça, un petit peu sur... on joue sur l'inconnu, l'instabilité du milieu, etc. Et la voile, on a essayé d'acquérir du matériel pour faire du hockey sur glace. Donc c'est du sledge hockey, c'est du hockey sur glace assis. Donc on a du matériel pour pratiquer aussi le hockey sur glace, parce que la patinoire, c'est compliqué au niveau de l'équilibre, au niveau de plein de choses, la sécurité. Donc là, voilà, il y a du matériel. On fait avec une association, on a réussi à faire du parapente. Donc il y a des sportifs qui ont pu admirer Besançon de haut grâce à une assos. Voilà, dès qu'on, quand on peut, ben on, voilà, on pense que le sport c'est pour tout le monde, le soleil brille pour tout le monde, mais il n'y a pas de raison que nos sportifs ne puissent pas accéder au sport comme les autres.
Donc ça veut dire que vous mettez en place des partenariats avec d'autres associations pour que les choses puissent avoir lieu ?
Oui, tout à fait. Ouais. On aime bien travailler avec d'autres ligues, d'autres associations. En plus, tous les échanges sont enrichissants. Que ce soit pour notre assos ou pour l'autre assos, hein, la connaissance de nos sportifs, c'est toujours enrichissant, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Donc on essaie un maximum de développer tout ça. Puis on essaie de s'intégrer dans des rencontres pour tous. Donc on va à des randonnées VTT avec nos sportifs, et voilà, on s'intègre au milieu de tout le monde. Voilà.
Est-ce que ça peut dépasser le cadre sportif ? Est-ce que vous pouvez aussi mettre en place d'autres choses ?
Alors on essaie un petit peu au niveau culturel d'amener nos sportifs aussi à une ouverture culturelle, donc voir des spectacles, aller au FIMU, le Festival International de Musique à Belfort, leur faire découvrir tout ce que la culture peut offrir aussi. On a fait une initiation au cirque, enfin des choses comme ça avec une troupe, et on essaie aussi d'aller sur ce secteur-là, mais c'est un petit peu, on a l'impression que la culture, ils sont encore un peu éloignés de ce monde-là. Alors pour des raisons.
Hey, et pourquoi donc ? Oui, parce que c'est quand même la question, parce que avec toute l'accessibilité qui est souhaitée et qu'on propose aujourd'hui dans le monde de la culture. Alors, vous dites, du coup, c'est pas suffisant encore.
Ben c'est peut-être pas suffisant, peut-être au niveau de leur représentation qu'ils ont d'un théâtre, d'un opéra, que c'est pas pour eux, que c'est trop compliqué. Voilà, il y a pas mal de barrières encore à faire sauter à ce niveau-là. Peut-être en passant par des choses plus, des spectacles plus accessibles ou plus, voilà, humoristes, ou je sais pas, passer par d'autres. Enfin, trouver une manière de les amener davantage voir ces spectacles de qualité tout le temps.
Du coup, on parle de théâtre, mais il y a également la musique, il y a la littérature, il y a le cinéma. Oui. Il y a toutes ces entrées-là aussi qui sont possibles.
Toutes ces entrées-là sont possibles. Après, c'est des personnes qu'il faut accompagner. Donc, il en découle une disponibilité des éducateurs, beaucoup de choses. Parce que ce n'est pas simple d'organiser des activités avec ces gens-là. Il faut... parce qu'on me dit, c'est facile, il faut leur donner rendez-vous. Il faut leur donner rendez-vous, il faut qu'ils puissent venir au lieu de pratique déjà. Donc, s'ils ne peuvent pas venir, il faut aller les chercher. Donc, avec le petit bus, parfois, je mets une heure, je fais tout Besançon pour récupérer la troupe, pour qu'ils puissent pratiquer. Ce n'est pas évident. Il y a des foyers où ils ne sont pas nombreux en éducateurs. Ils ne peuvent pas emmener les sportifs sur les lieux de pratique. C'est des conditions pas forcément évidentes. Et puis après, il faut leur proposer. Il faut aussi créer l'envie et puis susciter l'envie. Et puis, c'est pas si évident l'accès comme ça à la pratique à la culture pour notre public.
Oui, puis là, accessoirement, quand même, ce serait peut-être bien de rappeler que vous êtes la seule... salarié de l'association,
oui,
il me semble.
Oui, oui, on est dans une association, on est un petit peu multicarte, ouais. Moi, j'aime bien aussi toucher un peu à
sentiment
tout.
Sentiment de liberté.
Il y a un sentiment de liberté, mais il y a de quoi faire, mine de rien, entre la paperasse, emmener le bus au garage. Il y a plein de cartes, multicartes, mais ça me plaît bien, je m'y retrouve bien.
Vous avez des homologues, des collègues, des associations qui font le même boulot que vous dans le secteur ?
Oui, il y a une association à Pontarlier, une à Morteau, il y a quand même une du côté du territoire de Belfort, après il y en a une à Dole, effectivement, il n'y a pas un grand nombre d'associations sport adaptées, on n'est pas très connus, et puis c'est vrai qu'on n'est pas, il n'y a pas grand nombre d'associations.
Il y a encore du boulot à faire. Je ne parle pas forcément des institutions, des collectivités, mais je parle de tout un chacun dans la tête. Il y a du boulot à faire pour accepter le handicap, les différents handicaps.
Oui, il y a toujours du boulot. C'est toujours... on enfonce un petit peu des portes avec la sauce et puis après le retour est toujours positif. On fait la fête de notre association du coup à la campagne dans un petit village et on a créé, j'ai dit il faudrait qu'on intègre les gamins de l'école là dans cette fête de la sauce et du coup on fait un cross. On organise un petit cross, une petite course et en duo. Donc un sportif court avec un gamin de l'école. Et donc, on a un petit discours, on dit aux sportifs, il faut que tu t'aides le gamin, il est plus petit, tu vois, ça va être dur de faire le parcours. Et puis, on a un discours pour les gamins de l'école, inverse. On leur dit, là, vous allez courir avec des personnes qui sont un petit peu en difficulté, il faut vraiment que tu l'aides. Et ça fait un cross, il n'y a pas de classement, tout ça. Hein. C'est juste des petites courses comme ça, où ça crée des moments vraiment chouettes.
Ouais, on passe du duo au tandem, quoi.
Ouais, c'est ça, on passe au tandem, mais c'est des petits moments sympathiques. Et du coup, c'est comme c'est par ces petites expériences qu'on arrive un petit peu à sensibiliser les gens, à reconnaître ces sportifs comme les autres, quoi, qui sont en général des sportifs formidables. Hein, parce que moi, je n'ai jamais à hausser la voix, je n'ai jamais à résoudre des problèmes de problèmes avec des arbitres quand on fait des compétitions, de tricherie, ça ne revient même pas à l'idée. C'est vraiment un rôle d'éducateur paisible à ce niveau-là, c'est un plaisir d'encadrer.
Ouais, parce que la tricherie, quand elle existe, elle est ailleurs. Et d'ailleurs, il y a la petite anecdote de Sydney.
Tout à fait.
Vous pouvez peut-être la raconter, Corinne, parce que vous la connaissez mieux que moi, mais elle concerne le sport.
Oui, c'était. Voilà, les Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques de Sydney en 2000, l'équipe d'Espagne a gagné l'épreuve du basket, dans la compétition basket, l'équipe d'Espagne a gagné et c'était des gens valides, étaient composés de gens valides. Du coup, gagner une médaille contre des personnes handicapées, il faut voir un petit peu la mentalité de ces sportifs-là. Et du coup, après, ils ont exclu tous les sportifs handicapés mentaux des Jeux paralympiques parce qu'il n'y avait pas
Punition pour
tout le monde. On a dit, on les exclut, il n'y a pas de test. On n'est pas tous d'accord sur qui peut venir pratiquer l'activité. Donc, on exclut tout le monde. Donc, on a trouvé ça très injuste parce que derrière les Jeux Olympiques, il y a quand même un discours d'universalité, d'accès à tous, d'égalité, etc. Et une tranche de la population est exclue. On a trouvé ça très, très injuste. Et du coup, en 2010, il y avait une commission qui s'est réunie pour un petit peu statuer sur la réintégration de ces sportifs. Donc, ils sont mis d'accord sur un test de QI, parce que donc il faut qu'ils passent tous internationalement un test de QI. Il faut avoir moins de 75 de QI pour être sportif de haut niveau en sport adapté. Tout le monde s'est mis d'accord et nos sportifs ont été réintégrés aux Jeux paralympiques de Londres, mais uniquement dans quelques disciplines. Malheureusement, c'est assez dérisoire et ils ne participent même pas aux Jeux paralympiques en hiver. Il n'y a pas de sport adapté dans les Jeux paralympiques en hiver. Et donc il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Le chemin, il y a encore pas mal d'embûches.
Il y a quelque chose à jouer pour les JO 2024 ?
Eh bien, on aurait aimé que ça soit en France, qu'il y aurait davantage de sportifs présents en sport adapté. Mais non, en fait, après, il y a des histoires de politique, de volonté. Mais non, il n'y aura que des sportifs un petit peu en natation, un petit peu en athlée, un petit peu en tennis de table.
Ce sont uniquement les disciplines qui seront représentées.
Voilà, avec quelques sportifs, quelques disciplines à travers l'athlétisme. Alors, on a notre grand champion de l'association, hein, Jean-Claude Thiévent, qui est un sportif de haut niveau, qui
cycliste.
Fait partie, tout à fait, cyclisme sur route, VTT, fait partie de l'équipe de France. Et il a fait les Jeux mondiaux en Australie, il est revenu avec une médaille. Donc,
c'est un Byzantin.
Un Byzantin, voilà. À connaître, qui mérite d'être connu. Et donc, malheureusement, Jean-Claude n'aura pas accès aux Jeux paralympiques. Il ne pourra jamais aller défendre un titre aux Jeux olympiques. Donc
Jean-Claude Thiévent, c'est aussi une figure un peu emblématique dans votre association et pour les autres aussi. Il sert de référence un peu ?
Oui, il sert de référence. Oui, il est parrain avec le conseil départemental, il est parrain d'une manifestation. Il est parrain de Grandes Heures Nature qu'organise Besançon. Donc voilà, médiatiquement, c'est sympa d'avoir un sportif comme ça qui fait connaître le sport adapté et puis qui est très sympa, qui mérite vraiment qu'on s'intéresse à lui. Qui met tout en œuvre pour sa carrière. Voilà, qui a une hygiène de vie maintenant, qui s'est fortement améliorée, qui ça fait partie de son projet de vie, d'évoluer, d'être toujours au haut niveau. Donc il prend les choses en main de manière correcte maintenant et il a beaucoup évolué.
Donc là, Jean-Claude, via le cyclisme, quoi, d'autres sportifs, d'autres compétiteurs dans l'association,
oui.
Sur d'autres disciplines.
Oui, on propose, hein, les sportifs, après ils disposent, ils font comme ils ont envie, ceux qui veulent faire que du loisir ne font que du loisir, mais on a des compétiteurs qui défendent qui vont au championnat de France, alors on les emmène, hein, sur des week-ends, hein, on a déjà bien navigué dans toute la France, et donc en tir à l'arc, en tennis, on les emmène en équitation, en escalade à des championnats de France, on y allait en foot à 7, en VTT, donc voilà, le programme est relativement bien chargé. On est très heureux d'organiser des championnats également avec la SOS. Et en avril prochain, normalement, si tout va bien, on organisera le championnat de France d'escalade dans la belle salle qui vient d'ouvrir, la salle Marie Paradis.
Ouais, à côté du stade Léo Lagrange.
Tout à fait, à Besançon, des murs qui est vraiment très très joli. Et on sera heureux avec l'association Entretemps de pouvoir venir faire découvrir nos sportifs et des sportifs qui viennent de toute la France.
C'est marrant, à chaque fois qu'on a un projet maintenant, on ajoute le « si tout va bien ».
Bah oui, hein, je pense que oui, notre président est en train de nous annoncer des nouvelles peut-être pas très rigolotes. On espère vraiment que ça va évoluer très vite. Le confinement a été aussi assez difficile pour les personnes en situation de handicap, hein. Ça a été pas très rose non plus, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les éducateurs ont fait vraiment un boulot formidable parce qu'il fallait prendre en charge aussi ces personnes pendant 2 mois, 3 mois d'être confinés. C'est pas évident du tout pour eux non plus. C'est des angoisses qui peuvent générer l'isolement, parce qu'après ils étaient confinés dans leur chambre, hein. Ils ne pouvaient pas manger avec les autres, tout ça. Donc ça a été des périodes très compliquées aussi pour... On n'en a pas beaucoup parlé, mais ça a été très compliqué aussi pour les éducateurs et les sportifs qui ont été vraiment formidables aussi pendant ces moments-là.
Bon, je profite qu'on parle du manque d'oxygène pour imaginer qu'on puisse faire une petite respiration, puis oui. À peine musicale. Vous avez choisi un titre, une petite musique que vous voudriez partager avec nous.
Oui, alors on peut écouter « Je veux du soleil ». Voilà, c'est un petit clin d'œil à la sauce, puis... Et puis on a besoin de soleil, hein. On a besoin de soleil pour tout, ça donne de l'énergie.
Pour tout et pour tout le monde.
Et pour tout le monde, tout à fait.
Je suis resté qu'un enfant, j'aurais grandi trop vite, dans dit que je veux retrouver maman, qu'elle me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je lui soleil dans ma mémoire, je lui soleil, je lui soleil. La citadelle, je veux devenir roi des marécages, sortir de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon, sans escarpins. Je lui soleil, je lui soleil, je lui soleil, je lui soleil. Ah 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 ah. Je lui soleil, tu sais, elle est jour.
Alors bien sûr, nous sommes sur Radio Bip, c'est 96.9, et puis on est dans une émission un peu particulière qui dit « Bruit de vestiaire sous la couette ». Et puis alors, on avait quelqu'un de particulier et d'atypique à sa manière, bien sûr, c'est Corinne Gollard de l'association « Le soleil brille pour tout le monde », et on espère qu'il va briller pour tout le monde et très longtemps, et qu'on va même mettre plein de soleil partout, parce que je pense qu'on va en avoir besoin dans les heures qui viennent et dans les jours ou les mois. Vous avez un petit soleil au-dessus de la tête en permanence, vous, quand vous vous levez le matin, Corinne, puisque vous dites « Moi, de toute façon, je fais un métier où je suis contente d'aller tous les jours. »
Et oui, j'ai vraiment cette chance-là. Non, mais vraiment, je reconnais que, ouais, à ce niveau-là, je suis très chanceuse, effectivement.
Vous êtes venue avec une photographie, une image qui raconterait éventuellement, si je regarde bien, parce qu'elle est un peu à l'envers, mais j'ai l'impression que c'est, s'agit de montagnes, j'ai l'impression qu'il y a de la neige, puis j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont les uns derrière les autres. C'est quoi cette histoire, Corinne?
Alors, c'est une photo à double entrée, en fait. Hein. C'est une cordée au sommet de l'aiguille du téléphérique du Midi. On allait en 2000, on a dit personnellement, hein, je vous parle déjà du côté personnel, on a dit il faut faire quelque chose en 2000. On est quand même, on vit en 2000.
Oui, soit c'est on se prend une grosse biture, soit on va au Mont Blanc.
Ouais. Et ben c'était ça. Donc du coup en 2000 avec les membres de ma famille, hein, mon papa, ma sœur, un oncle, et on était 12, hein, avec des amis, on a fait des cordées, et on a dit allez on va aller sur le Mont Blanc le an 2000, et écoutez, le 18 juin, tout le monde est arrivé au-dessus, c'est merveilleux, parce que le mal des montagnes, ça peut toucher n'importe qui,
complètement.
Même les sportifs de haut niveau. Et toutes nos cordées, on est arrivé au-dessus, on est parti, c'était pleine lune, il n'y a même pas besoin d'allumer les frontales, et c'était un moment assez magique.
Ah, c'est la carte postale, là.
La carte postale, effectivement. Et puis, quelques années plus tard, avec l'association, j'ai dit, la montagne, il faut aussi que nos sportifs accèdent à la montagne. On va monter un projet où les cordées seront mixtes. Il y aura des gens qui ne connaissent pas le monde du handicap, reliés par une corde, la symbolique hein, de la cordée. Oui. Hein. Il y en a un qui tombe, tout le monde tombe. On est liés les uns aux autres. Et il n'y avait pas de différence dans nos cordées. Du coup, les cordées étaient composées avec un guide, hein, parce qu'on assure le côté sécuritaire. Il y avait un guide, une personne personne, un sportif de la SOS et une personne valide qui ne connaissait pas du tout le milieu du handicap. Alors on fait des petites rencontres pour se faire connaissance et après c'est parti. On a traversé la Vallée Blanche du coup. On n'a pas fait le Mont Blanc. On a traversé la Vallée Blanche qui était assez pareil. C'était assez magique comme chose. Et donc c'est vrai qu'il y a une petite arête quand on sort du téléphérique qui est assez impressionnante. Il y a le vide à droite, le vide à gauche. Mais voilà, donc c'est un petit peu la symbolique où la montagne est accessible à tout le monde, où j'ai vécu moi émotionnellement des choses super personnellement. Et puis avec l'association, c'était aussi un grand moment.
Vous allez en repérage en famille, quoi.
Voilà, c'est un peu ça.
Et ensuite, vous ramenez tout ça au boulot.
C'est un petit peu ça. Effectivement, c'est un peu ça. Mais le côté cordé, d'être lié avec une corde. Et puis, en fait, voilà, le retour des gens valides qui ont participé à ces cordées, c'est comme je vous disais tout à l'heure, quand on ne connaît pas la méfiance, le handicap, c'est quoi, ça fait peur. Et puis là, hop, changement d'image complète sur ces personnes-là. Et voilà. Ça, c'est intéressant. Ça fait évoluer.
Votre approche du mal du siècle, ce sera un peu ça, c'est les idées reçues, quoi.
Oui, tout à fait, les idées reçues, le manque d'ouverture, comme ça. Donc je ne vous dis pas que ce n'est pas fatigant, que des fois, ce n'est pas un petit peu déstabilisant. Et puis, on a envie d'un peu dire, c'est usant, quoi. Ça use qu'en 2020, on soit encore obligé d'enfoncer des portes ouvertes comme ça. J'ai plein d'anecdotes, trouver un gîte pour ces personnes-là, pour partir en vacances, c'est compliqué. Quand on dit qu'on est avec des personnes handicapées mentales,
C'est quoi? C'est la réponse en face qui est compliquée?
Ouais, c'est le non. Non, c'est pas possible, quoi. Donc du coup, c'était. Il y a une petite anecdote par rapport à ça, puisque dans notre assos, on organise un séjour tous les étés. Et du coup, pour trouver un gîte, la première année, on m'a dit, il faut que tu organises un séjour, c'est très chouette et tout ça. Donc j'ai dit, oui, allez, on cherche un gîte. Oh, dans les Hautes-Alpes, c'est joli, il y a de la montagne, des lacs, c'est un très très joli coin. Je recommande aussi à tout le monde, aussi joli que le Doubs. Il y a du soleil, il fait toujours beau. Donc on a dit, allez, on essaie de trouver un gîte ici. Et beaucoup de difficultés à trouver un gîte. Et une fois, un gîte vraiment qui nous plaisait bien, avec une grande terrasse de l'espace, on aurait pu être vraiment bien. Et j'avais quand même la réponse de la personne en face, me disait, quand j'ai parlé des personnes, elle a un peu changé de... Donc j'ai dit à ma frangine, appelle et puis tu demandes pour quelques jours plus tard, et tu voudrais réserver le gîte, quoi, parce qu'elle m'avait dit qu'il y a pas, c'était pris aux dates qu'on voulait aller. Ma sœur a appelé quelques jours plus tard, et le gîte était disponible.
Elle, c'était OK, quoi.
Pour elle, c'était OK. Du coup, on y est allé avec notre troupe. Et là, ça a été, assez... L'accueil a été un petit peu froid. Mais le séjour s'est tellement bien passé que ça fait 17 ans qu'on va dans le gîte et les gestionnaires du gîte sont des amis, ils viennent boire l'apéro, ils connaissent tout le monde et c'est des moments sympas. Ils ont eu la trouille, oui, vraiment.
C'est ça, en fait.
Ouais, ils ont eu la trouille. Ils m'ont clairement dit, il intéresse que ça se passe bien, on ne veut pas de problème avec vos résidents, tout ça. J'ai dit, mais il n'y aura pas de problème, ça va bien se passer. Et puis depuis, Cyril et Nathalie, c'est des amis, la sauce et... Ils connaissent, ils ont reconnu aussi que qu'il fallait des fois être devant, reconnaître les gens pour
donc l'éducatrice, c'est aussi éduquer le monde extérieur, à l'intérieur que ça se passe finalement.
Boulot. Tout à fait. Oui, Sébastien, ça s'est très bien trouvé. Il y a autant de boulot à faire par rapport à l'acceptation de nos sportifs que de gérer nos sportifs, c'est pas du tout un souci, ça.
L'année dernière, vous aviez un paquet de licenciés, je crois à peu près 300, c'est ça?
Oui, 300 licenciés, oui, c'est chouette.
Et alors, il y a eu l'effet Covid ou pas l'effet Covid?
Aussi, l'effet Covid se fait sentir fortement, oui. Là, les éducateurs, les établissements sont beaucoup plus réticents à venir aux rencontres, parce qu'on fait aussi, on propose aussi des activités pour tous les foyers de la région, et donc là, il y a vraiment une réticence à venir faire une pratique mixte avec d'autres gens, d'autres foyers. C'est vraiment, c'est compliqué. Le début d'année un petit peu compliqué. Mais on essaie de continuer à mettre nos activités en place du mieux possible.
Bon, il vous reste quand même des licenciés, pour le coup.
Oui, pour le coup, il en reste. Il en reste, oui.
Et vous avez suffisamment accès aux structures, aux équipements sportifs à Besançon, facilement? On vous ouvre les portes comme ça? Vous avez les doubles?
Ouais, on n'a pas de doubles, mais on va y songer. Oh, c'est pas forcément simple, parce qu'on a des demandes un petit peu particulières, parce que c'est un public où on ne peut pas trop pratiquer les activités très tard le soir. Il faut qu'ils rentrent au foyer, il faut qu'ils mangent, ils ont des traitements à prendre, donc on demande toujours des créneaux un peu comme tout le monde, 17, 19, pas que ça dépasse 20 heures. Et des fois, on nous propose d'autres structures, ce qui fait que ça complique beaucoup la donne, puisque nous, nos sportifs ont besoin de beaucoup de repères. Dès qu'on va dans un gymnase, ils ont repéré les bus, le trajet, c'est compliqué
oui,
de mémoriser.
Oui, bien sûr, oui. Il y a tout l'aspect pratique
tout
avant,
l'aspect
après.
Pratique, oui. Et si on nous change d'installation, ça peut être pratique pour des gens valides, hein, pas de souci. Hop, le gamin, bah, il part heureusement, il n'est plus à la Malcom, mais nous, c'est très compliqué. Ça engendre beaucoup de conséquences. Du coup, c'est pas forcément simple. Ouais, c'est pas forcément simple.
Ça met les gens en insécurité, en fait.
Oui.
Un peu.
Oui.
Enfin,
vous
licenciez. Ouais.
Après, c'est mon rôle, effectivement, d'exposer ça au service des sports qui gère tout ça. Mais c'est vrai que ça, c'est des petites données qu'ils n'ont pas forcément. Mais...
Oui, et puis ça veut dire qu'il faut être en face. Il faut que les collectivités soient conscientes de ça aussi. Et que dans leur service, dans leur propre service, ils aient des gens qui soient peut-être initiés à ça.
Oui, tout à fait. Ouais, c'est la formation du personnel. Ouais. Comme l'intégration dans les clubs, hein, c'est un autre sujet, mais voilà, j'aborde un peu des sujets comme ça. Mais
bien sûr.
L'intégration dans les clubs, nous, on est tout à fait pour, parce que dans l'idée, hein, dans notre société, si on pouvait ne pas exister, hein, que tous nos sportifs soient intégrés avec des gens valides dans d'autres associations, on serait contents. Hein. Nous, on prône vraiment pour l'inclusion. Après, c'est délicat quand ça marche pas, quand c'est pas bien fait, quand nos sportifs peuvent pas s'épanouir complètement parce qu'ils peuvent pas avoir accès à la compétition, c'est embêtant, ça nous embête beaucoup. Et il faut des gens formés. Voilà, c'est comme dans les écoles, c'est comme l'intégration des jeunes enfants handicapés dans les écoles. S'il n'y a pas les moyens, c'est très compliqué et ça peut poser d'autres soucis quand ça se passe mal. Voilà.
Vous accueillez parfois des jeunes collègues, des gens qui sont éduqués comme vous avec cette spécialité-là?
Oui, on est ouvert vraiment. On est aussi à l'UFR Sport dans des journées où on organise, où on sensibilise les étudiants à l'accueil de ce public-là. On accueille aussi, il y a des formations pour les éducateurs qui sont dans les clubs ordinaires. Il y a des formations pour accueillir ce public. Donc voilà, ils ont toute possibilité de s'ouvrir à l'accueil de notre public, avec plaisir.
Pour qu'on se rende compte un petit peu, Corinne, on a parlé tout à l'heure de Jean-Claude Thiévent, médaillé de bronze, Coupe du Monde, tout ça. Et puis, c'est un de vos licenciés. Et en même temps, peut-être on peut parler aussi, de ce licencié que vous avez avec vous et qui joue à la pétanque et qui lance
tout
des...
Tout à fait. Oui.
Là, on est dans autre chose.
On est dans autre chose. Il y a toutes sortes. Chaque sportif vient avec ses représentations, ses envies, ses objectifs complètement différents. Donc on a des sportifs, un sportif de très haut niveau, on a des sportifs de haut niveau qui font des championnats de France et on a des sportifs qui ont des déficiences plus compliquées et qui viennent en activité, alors qui ont des objectifs de rencontrer d'autres personnes, de sortir un petit peu de la maison et l'activité un petit peu annexe. Voilà, donc c'est vrai qu'à la pétanque, ça fait plusieurs années que j'ai un sportif qui pratique, qui lance les boules très très fort. Donc l'objectif, c'est un petit peu de ne pas faire de trous dans le boulodrome. Et on se rapproche du cochonnet petit à petit, mais l'objectif. Donc je joue régulièrement avec lui parce que c'est compliqué d'avoir un partenaire qui joue un petit peu tout seul contre les autres. Donc c'est chacun ses objectifs. Donc Laurent, c'est plus plutôt une activité récréative et où il se retrouve avec les autres. Donc chacun ses objectifs.
Donc on est vraiment en face d'une grande diversité, quoi.
Tout à fait, oui. Toute une grande diversité. Et puis Jean-Claude, une petite anecdote concernant Jean-Claude, qui est quand même un champion à part entière. Et une année, je n'avais pas pu l'accompagner à un championnat de France, c'était il y a quelques temps. Et du coup, je lui avais dit, tu me tiendras au courant de ta performance. Et donc il m'appelle, il me dit, ouais, je suis en tête. Il me téléphone, il me dit, je suis en tête. Mais comment ça, t'es en tête? Il était en train de rouler. Il me téléphonait pour me dire « Je suis premier, il n'y a personne derrière. » Je lui dis « Raccroche et tu m'appelleras après quand tu auras passé la ligne d'arrivée. » Donc, c'est des petites anecdotes qui, avec nos sportifs, ça peut être comme ça, ça peut se passer comme ça. Il faut être prêt à tout. Donc, c'est drôle.
C'est joyeux, c'est plutôt joyeux.
C'est
quand
joyeux,
même.
C'est joyeux, c'est très joyeux. C'est très joyeux.
D'autant que si, comme vous le disiez tout à l'heure, vous n'avez pas à lever la voix, à faire de preuves, montrer trop d'autorité.
Tout à fait. Moi, c'est vrai que c'est comme je vous dis que j'ai pas l'impression d'aller au travail parce que on donne beaucoup, mais on reçoit énormément avec ce public-là. C'est toujours très riche.
Donc du coup, vous êtes un peu l'unique référente. Pour le coup, il faut pas tomber malade, hein, Corinne.
Oh oui, oh non, je suis entourée d'une bonne équipe, d'un bureau avec Babette, avec Viviane, la présidente, qui est là depuis le début.
Ouais, donc le bureau de l'association, quoi.
Ouais. bien, bien féminin et composé aussi de sportifs de la sauce. Donc ça, c'est chouette. Hein. Chacun peut s'exprimer, donner son avis. Hein. Mais j'ai Catherine, une éducatrice qui est toujours là, toujours présente dès qu'il y a plein de monde dans la sauce qui peuvent pallier quand je ne suis pas là. Il n'y a pas de souci.
Et bien sûr, c'est une association qu'on peut rejoindre si on a envie, quoi.
Oh, bah avec plaisir, avec plaisir. Nous, on est heureux d'avoir des bénévoles avec nous qui viennent participer aux activités, faire des activités avec nos sportifs, donner un coup de main quand il y a besoin. On est vraiment... Oui, tout à fait. On est ouvert, pas de problème.
Alors, vous êtes venue avec un autre objet, Corinne. C'est à peine plus inquiétant que la photographie de montagne. C'est un peu un couteau quand même. Voilà, vous l'avez replié, c'est gentil.
C'est vrai.
Mais ça nous emmène où, ce couteau?
Alors, c'est un laguiole. Donc, c'est un cadeau que mes amis du Sud-Ouest, hein, Tito Kelulut, m'ont fait il y a quelques années quand j'étais animatrice de colo. Et j'étais animatrice d'une colo avec eux dans les Landes, dans le Sud-Ouest. Donc c'était une petite parenthèse enchantée, ces 3 semaines de colo où on se retrouvait avec la même équipe d'animateurs, des jeunes ados qui venaient en colo. Et on se disait, mais si la vie pouvait être toujours comme ces 3 semaines, ce serait formidable. Et puis du coup, ça me faisait aussi le lien avec mon enfance où où je participais à des camps quand j'étais en tant que colon avec une troupe d'animateurs, les camps de Vercelles, là, et dont certains animateurs sont restés des amis, donc Babette, Marie, Claude, et toute une troupe d'animateurs où on a vécu des moments sympas également en tant que colon. Et puis maintenant, avec l'asso, j'organise ce séjour, donc c'est un peu toute une transition et on essaie pendant ce séjour de créer un climat où les sportifs coupent vraiment avec la vie traditionnelle dans un foyer, avec des heures bien, bien définies. Donc là, ils font grasse matinée, et on a le droit de manger du Nutella, de faire ce qu'on veut, d'aller voir des concerts, de se coucher un peu tard. Donc voilà, on essaie de créer des vraies vacances. Donc ça, c'est un petit fil rouge, ce couteau, pour des petites années qui ont suivi ma vie, voilà.
Vous êtes une sacrée optimiste, en fait, vous.
Oh, il faut, hein, sinon, hein, on n'avance pas beaucoup, il faut, hein, surtout par les temps qui courent, là, il faut vraiment être optimiste. Et... Ouais, il faut voir la vie du bon côté, hein, sinon, on n'avance pas beaucoup. Il faut faire des projets, il faut, voilà. Donc, on est content, donc, d'éventuellement monter un projet avec Terra Luna, de sportacle, là, on serait vraiment heureux que ce projet aboutisse, qu'il voit le jour, parce que, voilà, on a besoin d'échanges, d'ouverture, et voilà, en rencontrant des compagnies comme ça, c'est que du bonheur pour nos sportifs, qui sont très heureux d'être en contact avec d'autres personnes.
Ouais, puis de prendre le temps de se découvrir au travers d'une expérience un peu commune, quoi.
Tout à fait, voilà. Ouais. Qui apporte à tout le monde, qui enrichit.
Qui fait avancer, puis qui fait du bien à la tête.
Ouais.
Qui amène le soleil.
Tout à fait.
Alors, là, on nous a amené il y a 5 minutes sur la table un joli plat avec une cloche comme ça. On découvrira ce qu'il y a dessous quand on soulèvera la cloche, mais on a senti déjà comme ça une petite odeur de gratin.
Oui.
Et c'est l'heure en même temps où on a faim.
C'est l'heure, on a faim.
Et une odeur de gratin qui se répand dans le studio comme ça, qui fait du bien aussi aux narines. Mais, bon, j'ai rien contre le gratin, Corinne, au contraire. Et Dom et moi, on aime bien ça et on partagera le gratin avec vous tout à l'heure. Mais pourquoi le gratin et pas autre chose?
Mais c'est une odeur quand j'entrais chez mes grands-parents, une odeur dans la cuisine. Dès qu'on poussait la porte, il y avait ce gratin fait avec amour dans un vieux plat dans lequel on fait les meilleures soupes. Là, c'était tout le vieux plat de mes mères avec son gratin. Et c'était la tradition de retrouver les cousins, la famille. Et ça sentait bon, on mangeait bien. Et c'est des moments qu'on aime partager ensemble. Et cette odeur de gratin, oui, bon gratin. C'était très bon. Donc, c'était lié à des bons souvenirs de retrouvailles en famille avec des gens qui vous donnent des racines. Donc on a besoin de racines. Hein, pour
ouais, la racine, aller vers le couteau, la cordée. Plein de symboliques comme ça.
Plein de symboliques, il y a beaucoup de symboliques. J'utilise des images beaucoup, oui, c'est vrai.
Le petit vin qui va avec le gratin, c'est...
C'est pas mal.
Le vin du Jura.
Le vin du Jura, oui, moi je suis... Notre terroir, je le défends aussi. Hein. Et Il a du mal, hein, certaines personnes ont du mal avec notre vin qui est un peu qui sent la terre et tout ça. Et moi, j'aime beaucoup ce vin du Jura. Et voilà, avec quand même raisonnablement, hein, mais j'apprécie fortement.
Oui, puis on a le droit parfois de ne pas être si raisonnable que ça. Vous êtes une fêtarde, vous, Corinne ?
Oui, j'aime bien la fête, oui, j'aime bien la fête. J'aime bien faire la fête, oui. Ça fait partie de la vie, il faut faire la fête, hein. C'est important aussi, c'est important aussi.
Et du coup, c'est une dimension que vous amenez dans l'association aussi, celle de la fête ?
Oui, on amène celle de la fête. Donc quand on va, c'est paradoxal un peu le sport adapté, parce que quand il y a des championnats de France, le samedi soir, il y a toujours une grande fête qui est organisée. On est obligé d'organiser une soirée de gala, il y a de la musique, et là, on ne peut pas aller coucher les sportifs parce qu'ils veulent danser, et le lendemain, la compétition continue, et ils adorent faire la fête, ils adorent, et c'est des bons moments de convivialité, ouais. On avait été à Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées, là-bas, tout au bout, vers la frontière espagnole. Et il y avait une bandasse et on avait fait la fête jusqu'à très tard le soir. Et du coup, le lendemain, les organisateurs avaient décalé un petit peu le début de la compétition parce que tout le monde avait vraiment profité.
Les organisateurs s'adaptent aussi, du coup. Tout le monde s'adapte, hein, dans le sport adapté.
Tout le monde s'adapte. Mais c'était des beaux moments. Mais ils adorent, c'est un public qui adore faire la fête, danser.
Vous avez remarqué qu'à Radio Bip, la grande table qui accueille les invités, elle est aussi adaptée.
Elle est adaptée, oui, tout à fait. Elle est très jolie, un très joli design. Très joli design, tout à fait, elle est adaptée. On peut recevoir les gens en fauteuil roulant.
Absolument.
À Radio Bip, oui, c'est une manière d'accessibilité qui est sympa.
Parce qu'il paraît qu'il y a encore un peu de boulot en matière d'accessibilité aussi.
Oui, il y a encore de quoi faire. Il y a encore énormément de travail.
Vous pensez que la société elle est prête à ça ou c'est juste ces institutions qui doivent faire le boulot, ces éducateurs, ou bien c'est notre regard tout bêtement qui doit changer ou arrêter d'être un peu trop auto-centré?
Oui, je pense que c'est un peu tout ça, hein. C'est un peu tout le monde qui doit s'y mettre pour faire vraiment évoluer les choses, hein. Il y a une loi, la loi de 2005, hein, ça fait 15 ans que dans les textes, l'accès à toute la culture, le sport, toute la vie citoyenne comme les autres devrait être accessible. Et dans les faits, ça fait 15 ans et ça avance pas beaucoup, hein. Pour un petit exemple, hein, pour avoir une lisibilité, le sport adapté, hein, personne, effectivement, pas grand monde ne connaît le sport adapté, on connaît beaucoup en e-sport, parce que des personnes en fauteuil, c'est un handicap qui se voit, tout le monde peut avoir un accident demain et ils sont sensibles à ce handicap-là. Le handicap mental, ça ne se voit pas forcément, hein, c'est des gens un petit peu invisibles dans les médias, invisibles à la radio, qui ont du mal à s'exprimer, à qui on ne donne pas forcément la parole. Mais donc oui, vous pouvez rencontrer des sportifs de la sauce sans penser qu'ils souffrent d'une déficience mentale. Donc c'est compliqué de se faire une place dans les médias. Jean-Claude, malgré ses performances et son haut niveau, il n'apparaît pas dans le journal local. Il n'apparaît pas dans la rubrique sport, hein, quand on veut faire passer des...
Et tiens donc, et pourquoi ? Alors il apparaît dans quelle rubrique, si ce n'est pas celle du sport ?
Besançon, information locale, des choses comme ça. Mais sport, c'est calibré. Il y a de la place pour le foot, il y a tant de place pour le handball. Mais le sport adapté, le handisport...
Ce ne serait pas un peu une forme de discrimination quelque part ?
Un petit peu, je suis bien d'accord avec vous, Sébastien. Il y a encore de quoi faire, même à tous les niveaux. Mais donc voilà, la bagarre pour les Jeux paralympiques, la bagarre pour avoir de la place dans les journaux, les quotidiens, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire.
Si je vous dis Besançon, London, vous me répondez quoi ?
Oh oui, c'était un projet un petit peu... On aime bien être un peu dans la provoque, dans les choses comme ça, pour faire justement... Enfin voilà, c'est un peu notre manière de fonctionner, pour faire avancer des fois des choses. Oui, donc suite à cette exclusion et des Jeux paralympiques après Sydney, il y avait donc une décision qui allait être prise pour la réintégration des sportifs. Et nous, on a dit, on va marquer le coup, on va faire Besançon-London. Donc on va partir à vélo, donc on va alerter les médias, on va faire une petite caravane avec nos sportifs et on va partir à London. Du coup, on était à place de la mairie à Besançon, prêt à partir. Donc, les médias étaient présents. Ils nous ont dit, oulala, vous allez jusqu'à London avec votre troupe, là. Ça n'a pas l'air très... Voilà, ça ne va pas être facile. Hein. Mais on a dit, mais si, ça va être facile parce qu'on va à London. Dans le 71, il y a un lieu dit qui s'appelle London. Donc c'était drôle parce qu'on a fait 100 et quelques kilomètres, on s'est arrêté à Arquesnans, on a sensibilisé des gamins dans des collèges avec notre petite troupe et on est allé faire un match de foot à Louvain-Cuiseaux contre une équipe valide avec des jeunes déficients et ça a été tout le long du trajet des moments sympas et on est arrivé à London, cette petite pancarte bleue, ce lieu dit qui existe. C'était rigolo. Et du coup, on est retourné à Rio, quelques années plus tard.
Eh ben oui.
Toujours continuer à essayer de dire, mais il nous faut de la place pour nos sportifs à Rio. Donc Rio, juste à côté, dans la Haute-Saône. Mmh. Voilà. Bon, Pyongyang, c'est compliqué d'aller jusqu'à Pyongyang. Il n'y a pas de Pyongyang dans le Doubs ni aux alentours.
Il n'y a qu'à l'inventer. Hein.
Il n'y a qu'à l'inventer.
En même temps.
Ouais, exactement.
On a bien le droit de mettre des pancartes où on veut, non?
Où on veut, tout à fait. On aurait pu.
Et il vous reste Venise.
Il nous reste Venise. Pas très loin. Oui, c'est ça aussi. Sans gondole, mais Venise, pas très loin, pas de problème. Non, mais oui, voilà, donc c'est vrai que c'est des petits coups médiatiques comme ça qui font un peu parler de la sauce et puis qui font parler de nos sportifs et qui mettent voilà, quelques petites banderilles comme ça pour nos sports adaptés.
Il y a un rendez-vous à retenir dans les... Alors, c'est difficile de dire aujourd'hui dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, mais... Et parce que là, il n'y a plus de rendez-vous du tout, mais il y a un rendez-vous sur un peu plus loin, vers le printemps, quelque chose comme ça, qui pourrait nous donner un peu de baume au cœur en se disant, tiens, on va sortir et on va aller voir Corinne et ses sportifs.
Oui. Eh bien, on espère qu'en avril, donc, organiser ce championnat de France, hein, où nos sportifs bisontins auront besoin d'encouragement. Donc, on attend des spectateurs aussi, des bisontins qui viennent voir nos sportifs faire les performances qu'ils feront.
Alors, ça, on les voit où, en fait?
Eh bien, à la salle Marie-Paradis. Du vendredi 9 au dimanche 11 avril, il y aura des compétiteurs du sport adapté qui viendront de toute la France. Et voilà, les bisontins, ils essaieront de tirer leur épingle du jeu. Et après, bon, on essaie toujours de monter d'autres projets, des petits séjours, activités pleine nature pour les gens plus lourdement handicapés qui ont besoin de pratiquer, d'être aussi acteur. Voilà, on a toutes sortes de choses. On revient d'un beau projet qui a été reporté à cause du Covid, mais qu'on a réussi à mettre en place, qu'on est parti faire de la voile sur un bateau en Corse. On a eu beaucoup de chance aussi d'être reçu par une super assos qui s'appelle la Grande Zotte. C'est un bateau avec des voiles auriques, donc très joli bateau. On a pu naviguer dans la baie d'Ajaccio et c'était aussi un moment très chouette. Il y a plein d'assos, plein de choses qui se passent, qui plein de gens qui font des belles choses. Et je trouve que voilà, dans les médias, je remercie Radio Bip de donner la parole, tout ça, parce qu'il se passe plein de choses chouettes. Voilà, les infos en ce moment, c'est pas sympa, mais je trouve qu'on donne pas assez la parole à des gens où on met en valeur des gens qui font des belles choses, parce qu'il y en a plein. Il y a plein de belles choses. Et on devrait en parler davantage. Je trouve.
Mais nous, on est bien contents de vous avoir reçu, Corinne, en tout cas. Et puis, merci de nous avoir ouvert vos portes et puis les portes de l'association Le Soleil Brille pour Tout le Monde.
Avec grand plaisir.
Et ce sera avec plaisir qu'on partagera ces rendez-vous que vous nous proposez là. Peut-être on pourrait imaginer qu'on se quitte pour pas longtemps, en tout cas, mais que pour ce soir, c'est vous qui... nous donner la petite respiration musicale qui va bien, la prochaine.
Oui, alors c'est une petite respiration musicale avec quelqu'un qui donne la pêche, hein, Manu Chao. Moi, j'ai eu la chance de le voir en concert. Et donc, hein, l'ancien chanteur de la Mano Negra. Hein, donc, c'est de la musique un petit peu qui envoie et ça donne toujours le peps. Et j'aime bien ces musiques qui nous donnent envie de danser. Et donc, voilà, c'est Manu Chao. Sur un petit album, une chanson de l'album Sibérie m'était contée. C'est des petites chansons avec des petits textes sympathiques qui passent bien et qui nous font passer une bonne soirée.
Eh bien, allez, c'est parti alors.
C'est parti, merci. La vie.
J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. J'ai besoin de la mer. Tout à côté de moi, j'ai tant besoin de toi pour me sauver la vie. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens. Tant besoin de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin du métro pour aller boire un verre. Tant besoin d'oublier, tant besoin de prière. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Tant besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. j'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la terre pour connaître l'enfer, tant besoin d'un petit coin pour pisser le matin. J'ai tant besoin d'amour, tant besoin tous les jours. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai tant rêvé d'un jour, de marcher sous la lune. J'ai tant rêvé d'un soir, au soleil de tes nuits. J'ai tant rêvé d'une vie, à dormir ce matin. J'ai besoin de la lune, pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune, pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort, pour rire à mon destin. J'ai besoin de la lune, pour lui parler la nuit. Pas besoin de la mort, pour rire à mon destin.